Ce matin, nous allons continuer notre étude que nous avons commencée il y a quelques semaines dans le livre de Esdras. La semaine passée, nous avons regardé avec le pasteur Timothée le chapitre 3. Nous avons vu au début avec le pasteur Ronald qui a introduit cette étude dans le livre d'Esdras. Nous avons vu l'établissement, le retour de ce peuple d'Israël qui est sorti de l'exil, n'est-ce pas? C'est un peuple qui revient d'un exil de 70 ans. Qu'ils ont passé en Babylone, et là, ce peuple-là arrive chez eux, voilà, dans une ville qui est en ruine, on le comprend. Les gens ont été déportés, et il n'y a pas grand-chose qui se passait, les murs ont été abattus, la ville était écrasée par Nebuchadnezzar, quand il a amené tout ce monde-là en exil en Babylone, fait que la ville est en ruine, ces personnes-là reviennent au pays, reviennent à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Par où commencer? Mais dans le texte que nous avons vu auparavant, nous voyons que Dieu avait un plan. Dieu avait commandé la reconstruction de son temple. Et c'est la personne clé dans tout cela, qui a agi sous la souveraineté de notre Dieu, c'est le roi des Perses, Cyrus. Alors, nous savons que Dieu, d'après ce qu'il nous déclare dans Esdras chapitre 1, verset 2, c'est Cyrus même qui parle comme ça. Il dit, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. » Fait que cette maison qui est en train, que nous avons vue la semaine passée, avec notre pasteur Timothée, que les familles, les sacrificateurs, entre autres, nous avons vu que c'est sous la direction de le leadership de religieux de Josué et le leadership politique de Zorobabel que ces gens-là, avec leurs familles, ont recommencé premièrement par la reconstruction de l'autel, puis ils ont commencé par poser les fondements pour le temple que Dieu voulait que ses enfants lui construisent. Alors, et nous avons vu que le peuple tout entier était d'un seul cœur en arrière de leur leader. Et ils étaient comme un seul homme, motivés par le même sentiment pour reconstruire ce temple et l'autel. Et ce qui nous... quand je relis la fin du chapitre 3, je suis vraiment touché par l'expression de joie de ce peuple-là qui est en train de travailler à la reconstruction de l'autel et du temple de Dieu. Et nous voyons dans le chapitre 3, à la fin du chapitre 3, verset 11, le texte nous dit, « Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. » N'est-ce pas, on voit un peuple qui est conscient de la bénédiction, de la miséricorde de l'Éternel pour son peuple, le peuple d'Israël. Et comme ça, ils sont débordants de joie de pouvoir reconstruire le temple qui a été détruit, reconstruire l'autel qui est un symbole de leur reconnaissance pour pouvoir offrir des sacrifices pour leur péché. Le peuple était vraiment en joie. Et tout le peuple, nous dit le texte, poussait des grands cris de joie, célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Alors, on voit un peuple, le texte nous parle des vieillards, et tout le monde, les jeunes, qui poussaient des cris de joie, parce qu'enfin, ils étaient retournés dans leur pays, et ils sont en train de reconstruire le temple, reconstruire l'autel, et j'imagine que certains de ces vieillards, qui sont parmi ce peuple-là, ont dû connaître l'ancienne maison de l'Éternel, l'ancien temple, parce que seulement 70 ans, disons, qu'ils sont partis. Peut-être qu'ils étaient très jeunes, et peut-être qu'ils connaissaient vraiment l'ancien temple, et ils ont vécu certainement la démolition de ce temple-là avec l'arrivée de Nebuchadnezzar qui a tout abattu. Et là, maintenant, ils connaissent la promesse de l'Éternel qui leur garantissait qu'ils vont revenir dans le pays et que maintenant qu'ils sont revenus, ils sont en train de repartir. Je peux imaginer leur joie de pouvoir vivre ce moment-là. Et je pense que chacun de nous, si on était à leur place, on serait vraiment content dans l'allégresse de pouvoir jouir ce moment où on est revenu au pays et nous sommes en train de rebâtir la maison de notre Dieu. Alors le texte nous nous met devant nous, toutes les expressions de joie, vraiment, là, le texte du chapitre 3, bien entendu, et qui parle de ce début du fondement, hein, de ce début de l'érection de du temple de l'Éternel. Alors, tout ça a été vu dans les semaines précédentes. Aujourd'hui, nous sommes rendus au chapitre 4, et je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible, dans Esdras, chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 24. Alors, si vous êtes là avec moi, si vous avez votre Bible, nous vous invitons à suivre avec nous le texte. Esdras, chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et ils leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essa Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuréus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mestredat, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réhum, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réhum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dain, d'Arphatsatak, de Tampel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurant les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si les murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi la ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Verset 17, réponse envoyée par le roi Réhum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays et de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonné de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi d'Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et ils firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Dans ce chapitre-là, nous allons voir un peu plus près, comme il est indiqué dans le verset premier, les ennemis de Juda et de Benjamin. Nous allons voir qui étaient ces ennemis-là et leur stratégie pour arrêter la construction du temple de Dieu. Alors déjà au verset 1, on parle, le texte nous dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, qui étaient ces ennemis-là qui sont identifiés ici? Alors, ces ennemis-là, on le rappelle, Juda et Benjamin, n'est-ce pas? Le texte nous dit que ce sont les ennemis de Juda et de Benjamin. Alors, on veut juste dire que Juda et Benjamin, c'est les deux tribus, en fait, c'est la tribu du sud quand Israël a été divisé. Nous savons que après la mort du roi Salomon, Israël a été divisé en deux royaumes. Un royaume du nord, et ce royaume du nord-là, il avait comme chef, comme roi, c'était Roboam, le fils de Salomon lui-même, qui a été le roi de ce royaume du nord. Et ce royaume du nord avait 10 tribus, n'est-ce pas? Et la capitale était Samarie. Il y a de l'autre côté, il y a le royaume du sud, et qui était constitué de 2 tribus. Vous pouvez lire tout ça dans Deux Rois. C'est passionnant de voir ces histoires-là. Et ce royaume du sud, constitué de 2 tribus, Benjamin et Juda, c'est celle-là, c'est cette tribu-là qui a été amenée en captivité en Babylone. Et la capitale de cette tribu, de cette ville, si vous l'appelez Juda, confondu avec Benjamin, avait pour capitale Jérusalem. Alors le texte, quand le texte nous parle des ennemis de Juda et de Benjamin, c'était des ennemis de cette tribu-là, de ce peuple, de ce royaume du sud qui était amené en exil pendant 70 ans et qui sont revenus à Jérusalem, qui est la capitale, pour rebâtir le temple de l'Éternel. Alors là, on comprend que les ennemis, ce sont ces hommes-là qui se sont établis. Il y avait des personnes qui ont été établies à Jérusalem. Parce que imaginez, après une guerre, la victoire de Nebuchadnezzar, qui a tout abattu, qui a brisé le temple, qui a brisé les murs, et qui a amené tout le peuple, la majorité, disons, du peuple, en exil. Fait qu'il va rester un vide. Et ce vide-là a été comblé par ce peuple-là. Et nous pouvons le voir, nous allons le voir un peu plus tard, qui était ce peuple-là. Alors, ce peuple-là, il vit à Jérusalem. Et maintenant, il y a les vrais propriétaires de cette terre-là arrivent de la captivité, n'est-ce pas? Alors déjà, on peut comprendre qu'il va y avoir une certaine tension entre ces personnes-là qui vivent déjà à Jérusalem et ceux-là qui arrivent de l'exil de Babylone. Et le texte nous dit que ce sont les fils de la captivité. On comprend vraiment que c'est les petits-enfants ou bien les enfants de cette tribu, de ce royaume du sud qui a été amené en Babylone pour 70 ans, qui est revenu. Ils sont identifiés comme ça, comme étant les fils de la captivité. Et nous savons que c'est cette tribu-là, ce peuple-là, Israël, qui est en train de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors, on peut comprendre que ces ennemis-là, qui sont identifiés déjà au début du texte, du chapitre, là, comme étant des ennemis de Juda et de Benjamin. Pourquoi on peut les qualifier comme ça? En fait, je pense qu'on peut trouver plusieurs indications pourquoi ils sont identifiés comme étant les ennemis du peuple Israël. Et, premièrement, selon le verset 2, ce peuple-là lui-même s'identifie comme étant un autre peuple qui a été amené par le roi Assuréus. Le temps nous fait défaut, je n'ai pas le temps d'aller voir ça, mais dans 2 Rois, chapitre 17, verset 24, on peut voir vraiment comment est-ce que ce peuple-là a été amené en Samarie par le roi d'alors d'Assuréus. Et ce peuple-là a été établi en Samarie. Et pour depuis ce temps-là, ils vivent là et leurs petits-enfants sont déjà établis dans cette région-là d'Israël. Alors, on peut comprendre que l'arrivée de la tribu de Juda et de Benjamin à Jérusalem peut créer une tension, comme nous l'avons dit, peut faire peur à ce peuple-là qui est déjà là, qui jouit peut-être des biens qui sont à Jérusalem et qui se voit peut-être menacé par l'arrivée de ce peuple-là. Alors, on peut comprendre qu'ils sont vraiment des ennemis déjà, juste parce qu'ils vont perdre certaines faveurs, disons, là, certains héritages. Ils vont se convertir en ennemis, sûrement, du peuple, parce qu'ils ne sont pas vraiment les propriétaires légitimes de ces terres-là. Ils ont été amenés par un autre roi, alors que les vrais propriétaires ont été amenés en exil. On peut imaginer une deuxième raison pour laquelle ils sont peut-être identifiés comme les ennemis de ce peuple-là. Vous vous rappelez que dans la fin du verset du chapitre 3, nous voyons ce peuple-là, un peuple qui loue le Seigneur, un peuple qui est content dans l'adoration parce qu'ils ont vu les merveilles de l'Éternel, ils ont été conscients de la fidélité de l'Éternel. Et nous savons que l'ennemi, les gens qui sont ennemis de Dieu, n'aiment pas les gens qui se tournent vers Dieu et qui rejettent les idoles. Il faut juste rappeler aussi que ces peuples-là, c'est un peuple idolâtre. En fait, ils ne sont pas 100% idolâtres, disons, parce qu'ils se sont, on peut le lire dans 2 Rois, chapitre 17. C'est un peuple qui est amené à Samarie, qui a été enseigné dans la loi de l'Éternel par l'un des prêtres qui a été amené en Samarie juste pour les former, pour les enseigner. Mais le texte dans 2 Rois nous dit que carrément ces peuples-là ont laissé tomber les enseignements qui ont été amenés par le sacrificateur. Et eux, ils se sont délibérément donnés à leurs idoles. Fait que c'est un peuple qui connaissait la loi de l'Éternel, mais qui décidément a pris la position de ne pas écouter l'Éternel. Le texte nous dit qu'ils ne craignaient pas l'Éternel. Et qu'en même temps qu'ils adoraient l'Éternel, disons, ils adoraient leurs images, ils restaient attachés à leurs idoles. Fait que c'est ce genre de peuple-là qui est maintenant à Jérusalem, et puis on comprend qu'il peut être vraiment dérangé par le fait que le peuple Israël est en train de louer, de donner gloire au Dieu, le vrai Dieu. N'oublie pas qu'eux, ils croient, ces peuples-là, ils croient à des faux dieux, ils ont des images, ils adorent des images. Et que pour eux, adorer le vrai Dieu d'Israël, ça peut créer un mécontentement. Et comme ça, ils peuvent être vraiment identifiés comme des ennemis. Ils sont s'identifiés même comme des ennemis d'Israël. Et nous comprenons aussi que ce peuple-là, il mélangeait les deux cultes. Le culte qui est entièrement dédié à l'Éternel, un culte, on va dire, hybride, où ils peuvent d'un côté célébrer l'Éternel, adorer l'Éternel, la façon qu'ils le comprennent, parce qu'ils n'étaient pas sincères dans leur adoration. Et de notre côté, ils sont en train d'adorer les idoles, les anciens dieux qu'ils avaient. Ils avaient gardé cette forme de culte, un genre de culte où ils adoraient Dieu et puis un autre faux dieu. Alors, on comprend que vous pouvez lire ce récit-là dans 2 Rois, chapitre 17, versets 28 à 33. Ça donne, on n'a pas le temps pour le lire, mais ça donne vraiment une bonne idée de comment ce peuple-là, il comprenait leur action, comment est-ce que se comportait dans leur culte, et que vraiment, ils n'étaient pas vraiment des peuples convertis, des peuples vraiment entièrement, dont le cœur était entièrement à l'Éternel. Une dernière raison qu'on pourrait évoquer pourquoi ils étaient identifiés comme étant des ennemis du peuple de Dieu, c'est eux-mêmes qui le disent. Et peut-être vous l'avez remarqué dans les versets quand on les a lus. Leur action témoigne vraiment qu'ils ne sont pas des amis du peuple de Dieu. Et nous allons les voir dans les versets qui suivent quand on va passer à travers les autres versets. Alors, ce peuple-là, qui est identifié comme étant les ennemis du peuple de Dieu, dans le verset 2, il vint auprès de Zorobabel, qui est le chef politique, et auprès des autres chefs de la famille pour leur offrir leur aide. Alors il leur dit dans le verset 2, « Comme nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Etsar-Abon, roi de Syrie, qui nous a fait monter. » Comme je l'avais dit, le peuple lui-même dit qu'il a été amené ici de force par un roi. Et ils disent aussi qu'ils adorent le même Dieu, ils invoquent le même Dieu que les Israélites. Et comme je l'ai dit tantôt, si vous allez lire le texte du chapitre 2, du chapitre 17 de 2 Rois, du verset 28 à 33, vous allez voir clairement que ce peuple-là, ils ne comprennent pas, c'est un peuple qui adore deux dieux, le vrai Dieu supposément. Ils ont une connaissance du vrai Dieu, mais vraiment leur cœur, ils adorent dans leur cœur, c'est vraiment les idoles. Alors c'est ce genre de peuple-là qui vient offrir leur aide au peuple de Dieu pour les aider, disons, à bâtir la maison de l'Éternel. Et le verset 3, on voit que la réponse du peuple de l'Éternel, en fait, c'est les dirigeants, n'est-ce pas? On voit Zorobabel, comme nous l'avons dit, qui est le chef politique. Et cette fois-ci, intéressant de voir dans la réponse que Josué, qui est le souverain sacrificateur, le chef religieux, il fait partie de ces personnes-là qui vont donner une réponse à cette offre d'aide de la part de ce peuple, un peuple païen vraiment, qui veut offrir leur aide pour la reconstruction du temple de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre dans ce cas-ci? Le peuple de Dieu est en train de bâtir une maison pour l'Éternel. Et il y a un autre peuple qui vient, le peuple est déjà établi à Jérusalem. Ils viennent offrir leur aide pour reconstruire le temple de l'Éternel. Ce serait peut-être considéré comme vraiment de l'aide parce que ils peuvent ajouter un peu plus de main-d'œuvre. Peut-être qu'ils pourraient penser que le travail va se faire plus vite si on a plus de mains qui travaillent. Et pourtant, les chefs, les deux familles, Josué et Zorobabel, ils ne voient pas cette aide-là de bon œil. Et nous regardons dans le verset 3, et ils disent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, mais nous la bâtirons nous seuls. » Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de votre aide. Non, merci pour votre aide. Nous, les Israélites, les peuples de Dieu, nous allons bâtir tout seuls la maison de l'Éternel. C'est tentant, n'est-ce pas? C'est tentant dans une situation comme ça, hein, quand un peuple qui ne connaît pas l'Éternel, qui est en inimitié, on pourrait dire, au peuple de Dieu, un peuple qui rejette Dieu, vienne offrir son aide pour la construction du temple de l'Éternel. Et quand on est peut-être dans le besoin de main-d'œuvre, peut-être on serait tenté de dire, ah oui, donc viens nous aider. Mais nous voyons la réponse de nos frères là, ici, Zorobabel et Josué et le reste du peuple. Ils disent, non merci, pas de compromis, s'il vous plaît, pas de compromis dans le travail que Dieu nous a confié. Dieu nous a confié ce travail-là à nous, le peuple de Dieu. Alors c'est à nous de construire le peuple de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous pouvons être tentés, n'est-ce pas, nous pouvons nous retrouver dans des situations comme ça. Avoir à faire des partenariats avec des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ne sont pas au Seigneur. Il faut faire attention pour ne pas compromettre. Parce que si vous lisez le reste du texte, là, vous allez voir que toutes les actions de ce peuple-là, qui prétendaient aider le peuple Israël, ce sont des actions méchantes. Finalement, dans leur cœur, ils ne voulaient pas aider le peuple Israël. Ils avaient des desseins méchants contre le plan du peuple Israël, contre le plan même de Dieu. Alors, Faisons attention, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, dans nos activités, dans nos entreprises, dans nos affaires, et de demander vraiment le discernement de Dieu quand quelqu'un veut nous offrir un genre de partenariat ou bien nous voulons faire affaire avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Faisons attention et ne pas accepter des compromis dans l'œuvre de Dieu et surtout dans nos affaires. N'oublions pas que la construction du temple, c'est commandé par Dieu, n'est-ce pas? Et cette construction du temple, ce n'est pas juste monter des pierres, etc. Dans l'expression de ce peuple-là, on peut voir un peuple qui est en adoration, n'est-ce pas? Un peuple qui chante, qui célèbre l'Éternel. Il compte les bienfaits de l'Éternel. Il dit, sa miséricorde durera toujours. Fait que en bâtissant ce temple-là, ils sont en train de regarder en arrière et compter les bienfaits de Dieu, compter sur la fidélité de Dieu. Combien de fois Dieu a été fidèle envers eux. Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles ils sont en train de chanter et de célébrer. C'est un peuple qui est dans l'adoration quand il fait ça. C'est un peuple qui est dans l'obéissance aussi. Parce que c'est un projet de Dieu, c'est Dieu qui lui demande de bâtir ça. Alors, ce n'est pas juste monter des pierres et mettre du mortier, non. Tout le travail qu'ils sont en train de faire, et nous avons vu la semaine passée, c'est comme un seul homme, d'un seul cœur, avec une même vision, ils étaient en train d'obéir. Et une chose qui est importante qu'on a vu la semaine passée, la première chose qu'ils ont faite, c'était bâtir les autels. Ça parle d'une consécration, ça parle de la reconnaissance de leur péché, qu'ils vont offrir des sacrifices pour que Dieu puisse apaiser, la colère de Dieu puisse apaiser. Parce que dans ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore, le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas eu lieu encore. Il a fallu passer par les sacrifices pour que les péchés soient mis de côté, en attendant que le vrai sacrifice, le vrai, l'agneau de Dieu puisse venir et ôter le péché du monde de façon définitive. Mais nous voyons l'action qu'ils font en bâtissant l'autel, en bâtissant le temple comme une action d'obéissance par rapport à ce que Dieu leur a demandé. Ils ont obéi l'Éternel, ils ont vu la joie de ce peuple-là dans ce travail de Dieu qui leur a demandé. Est-ce qu'il y a un enseignement pour nous ce matin? Je pense qu'il y a un enseignement pour nous aussi en tant qu'Église, en tant que personne, serviteur, en tant que diacre, ancien, dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous, quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on est en train de travailler pour Dieu, dans le ministère qu'il nous a confié, est-ce qu'on le voit comme une action de grâce? Est-ce qu'on le fait avec un cœur joyeux, un cœur repentant aussi? Est-ce qu'on le fait comme étant des enfants qui sont obéissants, qui sont en train d'obéir à leur Dieu et faire le travail qu'il lui demande? Nous voyons que dans ce cas-ci, le peuple de Dieu avait ce sentiment-là de reconnaissance, de repentance. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble pour le construire le temple. Et ce n'était vraiment pas l'attitude du peuple ennemi qui voulait leur offrir leur aide pour reconstruire le temple. Il faut faire attention, comme je l'ai dit, il faut faire attention parce qu'on peut se trouver en tant que chrétien dans cette situation pareille et ça prend le discernement que Dieu puisse nous aider à discerner qui, avec qui on doit faire affaire, soit dans nos affaires personnelles, soit dans le travail de Dieu que Dieu nous confie ici. Dans le verset 4 nous dit « Alors les gens du pays, en parlant de celui qui était établi, comme nous l'avons dit auparavant, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Alors là, c'est clair, ce ne sont pas des ennemis, n'est-ce pas? Est-ce que mon ennemi va me décourager? Non. Est-ce que mon ennemi va m'intimider? Non. C'est clair que ce n'était pas des ennemis, c'était des ennemis du peuple de Dieu. Et puisque l'aide qu'ils ont offerte n'a pas été acceptée, finalement, leur vraie couleur est sortie, n'est-ce pas? Et ils se sont mis à découragés par sûrement plusieurs moyens, nous allons voir certaines de leur stratégie plus bas, et commencer par intimider même pour empêcher la reconstruction du temple. De verset 6, ils nous disent qu'ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers. Ça, c'est pas correct, ça. Ils vont payer à des gens de donner des faux témoignages par rapport à tout cela. Alors, ces gens-là vont donner des faux témoignages et tout cela pour faire échouer, nous dit le verset 5, faire échouer l'entreprise, le travail que Dieu lui a confié. Et le texte nous dit, il fut ainsi pendant longtemps, toute la vie du roi Cyrus et jusqu'au règne du roi Darius. C'était longtemps. Et le peuple a dû vivre ces temps de difficiles, de découragement qui leur a été suggéré ou proposé. Ou bien, toutes ces difficultés-là, tous ces défis-là qu'ils ont dû surmonter, tous ces bâtons-là que le peuple ennemi voulait mettre dans leur roue, ils ont dû faire face à cela. Et malheureusement, le peuple n'a pas pu garder le sentiment initial, disons. Ils n'ont pas pu garder le sentiment initial. Ils se sont découragés et vraiment, nous l'avons vu, nous pouvons le relire encore, les deux lettres qui ont été adressées. Il y a une lettre qui a été adressée au roi. Et c'est ça, c'est encore l'intention, vraiment, c'est vraiment l'intention claire du peuple, du ennemi de Dieu, qui voulait arrêter les travaux, et nous n'avons pas le temps pour relire le texte qui est là. Mais c'est clair, on voit les accusations mensongères qui sont dans les versets de verset 8 jusqu'à la verset 23. On voit comment ils ont manipulé les faits pour dire que ce peuple-là, ils ne vont pas payer l'impôt, etc. Et c'est pour cela qu'ils ont été déportés. C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Le peuple Israël, Jérusalem, a été déporté en exil. C'est parce qu'ils n'obéissaient pas à la voix. C'était un jugement de l'Éternel. C'est parce qu'ils n'étaient pas fidèles. Ils adoraient des faux dieux. Et tout le livre des rois nous parle, nous donne toutes les raisons pour lesquelles ce peuple-là a été déporté en exil. C'était le jugement de Dieu contre ce peuple-là. Alors que eux, ils attribuent cette déportation-là au fait que ce peuple-là, c'était un peuple rebelle, c'était un peuple qui ne payait pas l'impôt, etc. Alors, ils ont fabriqué des raisons, des fausses raisons pour miroiter au roi, en fait, le roi, pour faire voir au roi qu'est-ce qu'il va perdre comme bénéfice si ce peuple-là arrive à rebâtir la ville, si ce peuple-là arrive à rebâtir le temple. Ils vont perdre des revenus. Et ça, pour un roi, c'est précieux, n'est-ce pas? Ils vont voir qu'un chef politique qui voit ses revenus baisser, je pense que ça crée un problème. Alors, pour toutes ces raisons-là que les Rehumes et compagnie ont évoqué dans cette lettre-là, cela a pu convaincre le roi pour qu'il donne son aval pour l'arrêt des travaux, n'est-ce pas? On voit le peuple vraiment qui est assujetti à toutes ces pressions-là, à toutes ces découvertes de moyens d'intimidation, à toutes ces mensonges-là qui sont faits sur leur dos pour que les travaux arrêtent. Les ennemis, finalement, ont réussi, n'est-ce pas? La fin du texte nous dit que le roi dit, à la fin du texte, c'est « Gardez-vous de mettre en cela de la négligence. » Ça veut dire, ne négligez pas, là. Ne négligez pas de mettre ces choses-là que je vous dis en pratique. Il faut que ces travaux-là arrêtent, de peur que le mal n'augmente au préjudice du roi. Là, ils ont le feu vert pour arrêter le roi. Ils ont les dits du roi pour arrêter les travaux. Comme ça, ils vont aller voir, et le texte nous dit, ils ont hâté. Verset 23, il nous dit, aussitôt que la copie de la lettre du roi à Tazarsès eut été lue devant Rehum, Shnimshaï et le secrétaire et leurs collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils firent cesser leurs travaux par la violence et par la force. Ça, c'était vraiment pas des amis, n'est-ce pas? C'était pas des amis. Et ils sont aboutis, ils ont leur plan ont abouti contre l'œuvre que Dieu avait donnée, la mission que Dieu avait donnée à son peuple. Et à cause de toutes ces pressions-là, les travaux sont arrêtés, n'est-ce pas? C'est bien malheureux, mais nous croyons voir à travers tout cela que le peuple s'est ensombré dans la paresse. Le peuple qui avait ce sentiment vraiment de qui a été motivé pour la reconstruction de l'autel et du peuple de Dieu à cause de ces pressions-là, à cause de toutes ces intimidations-là, ils ont cédé. Les travaux sont arrêtés et nous voyons le peuple et ils ne font pas effort pour recommencer. Ils sont arrivés à cette étape-là où ils ont tout abandonné. On ne voit pas en eux cet esprit de gratitude qui les a pilotés tout le long dans le chapitre 3. On ne le voit pas. Et dans Agé va nous dire Dieu va susciter ce prophète-là dans Agée et va nous dire clairement quelle était la situation du peuple et que Agée va les pousser, va les exhorter. En fait, Agée, c'est suscité par Dieu. C'est Dieu lui-même qui réveilla l'esprit de Agée, le prophète Agée, qui va les brasser pour le dire, hey, il faut commencer les travaux, là, parce que ils se sont assis dans leur lazy boy. Et puis, le texte dans Agée nous dit qu'ils continuaient à construire leur maison, là, leur quotidien, ça va bien. Et ils oublient complètement le travail que Dieu leur avait demandé de construire son peuple. Alors, est-ce que ça peut nous arriver? Oui, ça peut nous arriver aussi. Quand on vit des situations difficiles, on vit des temps comme la pandémie que nous avons vécue, là, hein, est-ce que ces choses-là peuvent nous engourdir, peuvent générer en nous des sentiments de paresse et d'ingratitude, des gens d'inertie spirituelle? Oui, ça peut faire cela. Et c'est pour ça, souvent, on mentionne dans nos prières que Dieu nous garde de cette attitude-là, de tomber dans la paresse, dans l'inertie, d'abandonner notre assemblée à cause de ces situations-là. C'est ce qui est arrivé et au peuple de Dieu qui a bien commencé, vous l'avez vu, ils ont bien commencé, mais à cause des difficultés qu'ils ont rencontrées avec l'ennemi, le peuple ennemi, à cause de ces pressions, de ces intimidations-là, ils ont arrêté les travaux, mais pendant longtemps, ils n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas fait d'efforts pour reconstruire la maison de l'Éternel. Et tout le sentiment qu'ils avaient dans le chapitre 3 est totalement étouffé. Il n'est plus là. Ils n'ont pas ce désir de recommencer. Et tout l'effort qui a été investi au départ s'est soldé par un échec complet. Et l'ennemi, sûrement, a été en liesse, voyant que les travaux sont arrêtés. L'ennemi pensait avoir la victoire. Et pour un temps, oui, l'ennemi de ce peuple-là, qui a inventé toutes ces histoires-là pour occasionner l'arrêt des travaux, pensait avoir le dernier mot, mais nous allons le voir la semaine prochaine avec l'étude du chapitre 5, comment est-ce que Dieu va susciter, va les brasser pour que les chefs religieux et les chefs spirituels, je veux dire les chefs politiques, puissent aller voir le peuple et ensemble encore recommencer les travaux pour la reconstruction du peuple de Dieu. Nul n'est à l'abri de l'engourdissement spirituel. Nul. Personne ici, personne sur terre n'est à l'abri de l'engourdissement spirituel, surtout lorsque nous rencontrons des difficultés, des épreuves dans nos vies, n'est-ce pas? Soyons sur nos gardes et ayons les yeux fixés sur Dieu. C'est lui qui nous donne cette mission-là, la mission qu'il nous donne, de faire de toutes les nations des disciples. Nous allons rencontrer des embûches. Notre frère qui part et notre soeur qui part, ce ne sera pas facile pour eux, mais gardez vos yeux sur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne cette mission-là. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur le chemin, Dieu est là avec vous. Il va susciter de l'aide, il va susciter un moyen pour que son œuvre s'accomplisse. Et comme nous l'avons dit, Dieu va susciter un serviteur dans la personne du prophète Agée pour exhorter le peuple à rebâtir la maison de l'Éternel. Et si vous voyez, nous avons lu vite, mais le contenu de la lettre, ça dit tout, que les gens qui ont écrit cette lettre-là, les gens du pays, qui sont ennemis du peuple de Dieu, ils ont fait miroiter vraiment aux yeux du roi les pertes de revenus, n'est-ce pas? Les pertes de revenus considérables, et si jamais cette ville-là est rebâtie. Et ils ont finalement eu gain de cause et les travaux sont arrêtés. Vous savez que toute la Bible nous dresse un seul portrait de l'homme. Et ce portrait-là ne change pas, peu importe l'origine, l'ethnie, les siècles. L'homme ne change pas, peu importe la technologie qu'on a, le cœur de l'homme ne change pas. C'est un cœur qui est en rébellion constante contre Dieu, n'est-ce pas? C'est un cœur comme ça. Le cœur de l'homme, nous dit Jérémie, est tortueux et méchant. C'est la déclaration de la Bible. Ses actions sont teintées d'égoïsme, d'orgueil et de péché. Il est impossible de par nous-mêmes, abandonner à nous-mêmes, il nous est impossible de plaire à Dieu. Il nous est impossible. Les hommes sont infidèles et ils sont constants dans leur infidélité. Et le portrait du peuple Israël et des ennemis du peuple Israël, c'est exactement la même chose. On voit un peuple qui est rebelle, toute l'histoire du peuple d'Israël. On voit un peuple qui est rebelle. L'histoire de ce peuple-là, qui est ennemi, en fait, ce sont des Israélites aussi, n'est-ce pas? Ils sont aussi un peuple rebelle. Ils font des machinations. Ils montent des accusations mensongères. Est-ce que je pourrais faire ça? Certainement, je pourrais faire ça. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Mon cœur est comme ça. Mais toute la Bible, cependant, nous montre une autre image. C'est l'image de Dieu, le portrait de Dieu. Un Dieu, le seul Dieu qui n'a pas changé. Le vrai Dieu qui ne change pas à travers les temps, à travers les siècles. Le Dieu ne change pas. Comme le cœur de l'homme ne change pas pour les mauvaises actions qu'il fait, le cœur de Dieu ne change pas pour les bonnes actions. Et ce que Dieu fait, son amour, sa miséricorde et son appel à la repentance continue fidèlement. Il cherche des hommes, il cherche des femmes pour le royaume, pour son royaume. Il le fait fidèlement. Ce Dieu-là nous appelle ce matin. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, nous vous encourageons de ne pas quitter cette place sans le reconnaître contre ton sauveur et ton seul Dieu et de le servir. Et de venir, d'avoir cet héritage. L'héritage, pas un héritage comme les ennemis des enfants d'Israël ont eu pour un certain temps. Maintenant que les enfants d'Israël sont revenus de l'exil, ils sont déstabilisés parce qu'ils sont en train de perdre leur héritage. Non, l'apôtre Pierre nous parle d'un héritage qui ne se corrompt pas. Et c'est cet héritage-là que Dieu nous promet en tant que chrétien. Ayons les yeux fixés sur Dieu, ce Dieu qui ne change pas dans son amour, dans sa fidélité. Quand il nous confie un mandat, il est là avec nous. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 28. Hein? Allez faire de toutes les nations des disciples. Et je suis avec vous. Dans vos difficultés, dans vos défis, face à l'ennemi, face au péché, Dieu est là. Dieu est là. Tournons-nous vers lui. Cherchons sa présence dans une lecture quotidienne. Un approfondissement de notre connaissance dans sa parole de Dieu. Nous ne sommes pas différents. Aucun de nous n'est différent de ce peuple qui est ennemi de Dieu, que nous avons vu ce matin, qui a machiné toutes sortes d'affaires parce que leur concentration, c'était sur eux-mêmes. Et souvent, nous sommes comme ça. Nous voyons seulement nos propres intérêts sans voir l'intérêt de Dieu, le service de Dieu. Dieu peut nous faire grâce. Et nous pourrions être comme eux. Mais si Dieu nous appelle, Dieu nous a sauvés, et nous pouvons être différents. Dieu veut que par notre consécration à son service, par notre obéissance à son service, que nous soyons des témoins pour que les autres qui nous regardent puissent voir le changement que Dieu peut opérer dans le cœur de quelqu'un. Et quand nous pouvons apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui sont perdus de façon fidèle et en étant des témoins pour notre Dieu. Ayons à cœur de plaire à Dieu. Ayons à cœur de plaire à Dieu en toutes circonstances. Et comptons pas sur notre fidélité, parce que nous sommes incapables de plaire à Dieu, mais comptons sur la fidélité de Dieu pour lui plaire et lui plaire à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.